Et ce matin, c'est notre numéro de grain de beauté mensuel sur l'hypnothérapie en compagnie de Cynthia Nabé. Cynthia, bonjour.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous. Et nous avons choisi ce matin de parler du couple, de parler de la thérapie de couple. Comment l'hypnose, comment est-ce que cette technique peut-elle aider les problèmes de couple, mais avant d'avoir des problèmes,
il y a
quand même parfois
mieux.
Voilà, avant il y a quand même une façon de gérer aussi son couple, peut-être de consolider les liens qui existent, développer la séduction qui parfois s'étiole un peu avec les années, et puis après, bien évidemment, s'il y a des problèmes, des discordes, comment les régler. Alors on va voir ça dans quelques instants. Cynthia, on rappelle pour toutes celles et ceux qui découvrent l'émission, qui découvrent cette technique de l'hypnothérapie, ce que c'est et quel est le champ d'application de cette technique.
Alors, l'hypnose, de manière générale, c'est un état modifié de conscience. On peut être en état de modifié de conscience de manière dissociée ou de manière associée, ce qui donne des techniques de travail qui sont radicalement différentes en même temps très utiles de manière générale, très utile pour les deux, hein, qu'on travaille en manière associée ou en manière dissociée. Donc en manière dissociée, bah, c'est plutôt ce qu'on va voir à la télé, ce qu'on appelle aussi l'hypnose, ce qu'on appelle aussi, c'est une autre technique encore, l'hypnose ericksonienne. On en entend beaucoup parler. Ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on appelle l'hypnose classique. Et puis l'hypnose associante, bah, l'hypnose humaniste. Donc une fois qu'on a choisi, j'ai envie de dire, son obédience, son thérapeute, c'est affaire de contact hein, avant tout, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler avec son hypnothérapeute sur la problématique que l'on va choisir. Le champ d'application est extrêmement vaste.
C'est la vie.
C'est la vie, exactement, parce que l'hypnose, c'est aussi ancien que la vie. Finalement, c'est le langage. C'est beaucoup le langage du cœur. On a posé des techniques dessus, mais c'est beaucoup le langage du cœur. On retrouve des traces de ce qu'aujourd'hui on appelle l'hypnose, 6000 ans avant Jésus-Christ.
Ah oui. Voilà. Sous quelle forme on peut retrouver des traces d'hypnose?
Alors en fait, à cette époque-là, évidemment, on n'avait pas de livres, mais on retrouve en fait des tablettes. On a retrouvé des tablettes. On a retrouvé, par exemple, sur les temples, dans les temples
des représentations,
des représentations d'hiéroglyphes de 4500 ans avant Jésus-Christ, par exemple.
De gens qui se faisaient hypnotiser.
Qui se faisaient. Alors aujourd'hui, on appelle ça de l'hypnose, mais oui, c'était de la transe.
C'était de la
psy.
Quoi.
Exactement. Un peu la J'aime bien parce que ça fait toujours sourire et ça dédramatise, ça démystifie un peu le sujet. Dans les 12 travaux d'Astérix, la fameuse scène où Astérix et Obélix rentrent dans l'espèce de l'antre du prêtre égyptien. Ben voilà, c'est ce genre de choses qu'on a retrouvé sur les
pyramides. Ça fait longtemps, effectivement.
Ouais, voilà, ça fait longtemps.
Ça date, Astérix. Donc c'est utile. Donc c'est ça fonctionne
bien. C'est très utile et ça fonctionne vraiment très très bien.
Moi,
quand ça fonctionne après, c'est toujours...
Ce qui me paraît assez étonnant, c'est quand vous nous avez appris qu'on pouvait s'auto-hypnotiser et souvent, on le fait sans le savoir. Et c'est pour se ressourcer.
On
le fait tous les jours. Hein.
Tous les jours, chaque fois que vous avez votre cerveau... Enfin, par exemple, vous êtes au volant de votre voiture. Ça a dû arriver à tout le monde. Enfin, toutes les personnes qui ont déjà expérimenté la voiture, être au volant de sa voiture, et puis on met le contact, puis les pensées s'évadent, et à un moment donné, on se dit « Oh tiens, je suis déjà arrivée, il s'est passé 20 minutes, et on a comme une espèce de blanc, de trou noir, mais comment j'ai fait ça ?» Et on s'est arrêté à tous les feux, et on a très bien conduit, on conduit très bien dans ce moment-là.
On conduit sous hypnose, c'est quand même effarant, c'est quand même incroyable, donc on maîtrise, et c'est ça, ce sur quoi je voulais arriver, c'est qu'on continue de maîtriser sa personne.
Alors, il faut savoir une chose, c'est quand même l'hypnose, de manière générale, s'appuie pour l'hypnose dissociante, s'appuie sur le contact avec l'inconscient. Et il faut rappeler quand même que l'inconscient gouverne 90% des fonctions du corps. D'accord. Et donc des fonctions du cerveau aussi. Donc... vous avez en permanence 90% de vous-même qui fonctionne sans vous.
C'est-à-dire de nos gestes, de nos actions, tout, de nos pensées, de tout vos, ça.
Tout, 90% du cerveau qui fonctionne sans vous.
Ah, c'est intéressant de lire ça voilà. sur une personne comme ça, on peut découvrir son inconscient.
Alors, on dit toujours, oui, j'utilise que 10%, on n'utilise que 10% de son cerveau. Non, Dieu merci, on utilise 100% de son cerveau. On utilise effectivement seulement 10% de son cerveau consciemment.
Consciemment, c'est ça.
Voilà. Donc, alors, l'objectif justement de l'hypnose associante, de l'hypnose humaniste, c'est de faire grandir ces 10%.
Oui.
Voilà, de rendre plus conscient. C'est pas parce que...
Et quel est l'intérêt alors, Cynthia, de
et
rendre
de pouvoir
conscient
prendre, ben justement, de pouvoir oui. rendre d'inconscience tous ces automatismes-là, de les rendre conscients. C'est pas parce que c'est automatique qu'on ne peut pas en prendre conscience. Mmh. C'est pas parce que mon cœur bat tout seul, heureusement d'ailleurs,
oui.
c'est pas parce que mon cœur bat tout seul que je ne peux pas prendre conscience des battements de mon cœur. Mmh. Ça permet parfois, bah, heureusement, de se rendre compte que zut, en prenant mon pouls, il y a un truc qui ne va pas.
C'est ça.
Et là, à ce moment-là, je prends conscience de cet automatisme et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, j'ai des ratés.
Est-ce que dans l'hypnothérapie, la prise de conscience suffit à régler le problème ?
Parfois, ça suffit. Parfois, c'est simple. Parfois, mm-hmm. pas toujours. J'ai envie de dire, après, parfois, c'est juste du bon sens. On fonctionne sur un mode, justement, ça va faire le lien avec la suite. Mm-hmm. On fonctionne sur des schémas qu'on a depuis l'enfance. Et puis, c'est juste par habitude qu'on fonctionne de cette façon-là. Mm-hmm. Et on n'a pas fait de mise à jour. Et au final... On se retrouve à bugger, on se retrouve finalement à avoir des comportements qu'on traîne depuis l'enfance et au final qui nous servent à rien aujourd'hui en tant qu'adulte. Et le simple fait qu'il y ait une personne qui vous dise, mais ou même un ami, hein, il vous dit, mais je comprends pas, on se connaît depuis la maternelle, mais sur ce point-là, on dirait que t'es toujours en maternelle. Mmh. Et là, vous dites, mais c'est vrai, ça, c'est idiot. Puis j'ai pas besoin de ça, puis j'ai pas besoin de ce comportement. J'en ai plus besoin aujourd'hui. Mmh. Et là, le simple fait d'en avoir pris conscience fait qu'on grandit.
Alors, j'en ai plus besoin, et parfois même, ça handicape la vie d'adulte.
Et oui, pour certaines choses. Parfois, ça handicape la vie d'adulte. Et notamment pour la vie de couple, ça va handicaper la vie de couple. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de dire dans le milieu de la thérapie que la carte n'est pas le territoire. J'explique. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'enfance, en fonction de notre éducation, de notre vie, de tout un tas de choses, mmh. du comportement de nos parents, de la manière dont nos parents nous ont élevés et nous ont encouragés et nous ont... Et puis de toute façon, message à tous les parents qui nous écoutent, on blesse nos enfants, c'est pas grave, c'est très bien, ça permet aux enfants de s'adapter au monde extérieur. Mmh. Donc, on arrête de culpabiliser, ouais. Je ferme la parenthèse. Ouais.
Tout est bien, finalement.
Tout est bien, c'est toujours pour le ouais. bien, mm-hmm. d'accord ? Ce qui peut être perçu comme un handicap peut être aussi une grande ressource, mm-hmm. d'accord ? Donc, c'est important de savoir, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, de savoir transformer le handicap en ressource. Après, mm-hmm. chacun son chemin. Mm-hmm. Donc, pour en revenir à nos moutons, quand j'étais petite, on m'a appris, par exemple, que, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était barbu et ma mère me dit, pour une raison, je ne sais pas laquelle, non, t'approches pas parce que les barbus, ils sont pas gentils. Mmh. Bon, alors moi, 4 ans ou 5 ans, les barbus sont pas gentils.
Oui.
Bon, il se trouve
on
que
note
dans
ma... ça dans
alors,
notre
on note,
on le note.
On note et puis
et
en
on
fait,
s'en souvient.
Et on s'en souvient et puis alors en plus de ça, parce que imaginez-vous qu'un géant de 3,50 m vous dise des trucs comme ça. Alors la voix, elle est énorme, la taille, elle est énorme. C'est un peu la perception qu'il a un enfant quand il regarde un adulte. Mm-hmm. C'est ce que nous, en tant qu'adultes, on pourrait avoir d'un géant de 3,50 m. Mm-hmm. Donc vous êtes très impressionnés, ça vous met comme un état modifié de conscience, mmh. en état hypnotique presque, mmh. et puis vous êtes là, oui maman.
Et puis on accepte, c'est la parole de la mère.
Et on accepte ces paroles parce que c'est maman, parce que maman elle sait, parce que maman c'est mon monde, mon univers, et qu'elle sait tout.
Absolument.
Bien pour moi. Quoi.
Ouais.
Donc j'accepte ce que maman me dit, et donc les barbus, ils sont pas gentils. Et puis, un jour, je grandis, je vais à l'université, et puis, il se trouve que j'ai un prof barbu. Et là, je me dis, oh, les barbus, ils sont pas gentils. Oui. Et il se trouve que, du coup, eh ben, je vais pas avoir de bons résultats dans cette matière-là, parce que tétanisée par la peur de ce que maman m'a dit quand j'avais 4 ans, ce qui est absolument... Ça se trouve, elle a rencontré un barbu qui n'était pas...
Oui, elle a sa propre histoire.
Elle a sa propre histoire. Et moi, bah, je me suis... Alors, déjà, je me trimballe les casseroles de maman, ça c'est un. Et puis, en plus de ça, je m'empêche d'avancer dans la vie. Parce que ça se trouve, ce professeur-là a plein de choses à enseigner, plein de bonnes choses à enseigner, certainement, parce que s'il est enseignant, c'est qu'il a certainement des choses à transmettre, au minimum. Et donc, je m'en prive. Ça peut être... une hypothèse. Et puis j'avance dans la vie et je rencontre un jeune homme bien sous tout rapport et puis qui un jour décide de se laisser pousser la barbe. Tiens, c'est là que les problèmes de couple commencent. Et pourquoi donc ? Et en fait, tout ça, pourquoi ? Parce que j'ai pas réactualisé ma carte. Ma carte routière, finalement.
Ouais. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Cynthia, c'est que les choses qui ont été entendues, qui ont été donc intégrées dans l'enfance ou vécues dans l'enfance, nous transforment et nous marquent.
Bien
et donc,
sûr.
Dans la vie d'adulte, quels que soient les événements que je vais vivre, eh bien, il y aura ce savoir su dans l'enfance, intégré dans l'enfance, qui va nous mettre des bâtons dans
Exactement, qui va nous forger notre carte, notre carte du monde, notre carte routière.
Il faut se déprogrammer.
Alors, déprogrammer ou tout simplement réactualiser. Déprogrammer, ça peut être compliqué, il faut faire ça avec un thérapeute.
Oui,
la déprogrammation. Et en plus de ça, on déprogramme et on reprogramme. On laisse pas... La nature a horreur du vide et le cerveau aussi. Hein. Donc le thérapeute, il va déprogrammer et aider la personne à remplacer par des choses positives, des pensées ressources, ce qu'on appelle. D'accord ? Là, en l'occurrence, on peut tout à fait faire un travail d'introspection soi-même et aussi tout simplement d'être... Voilà, de réactualiser, de mettre à jour.
C'est comme ça, c'est si plus le travail de l'hypnose, c'est ça.
Alors, oui, en hypnose, on va faire beaucoup ce travail-là, mais déjà soi-même, on peut très bien se dire, OK, faire le bilan, qu'est-ce qui est utile pour moi aujourd'hui et qu'est-ce qui est inutile pour moi ? De quoi je me sers efficacement ? Qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui ne me rend pas heureux qui m'empêche d'avancer ? Et ce qui m'empêche d'avancer, eh ben je m'en débarrasse.
Oui, mais c'est là, ça semble simple quand on vous écoute, Cynthia. Pardon. Mais quand vous dites qu'est-ce qui me rend heureux, déjà répondre à cette question, parfois, ça peut être difficile. On peut être aveuglé et se dire j'ai le sentiment que cette voie-là me rend heureuse et puis c'est pas vrai.
Alors, j'ai le sentiment que ça me rend heureux, concrètement, est-ce que j'avance dans la vie ? Est-ce que j'ai de la joie quand je fais, quand je suis sur cette voie-là ? Est-ce que j'ai de la joie ? Est-ce que les gens qui m'entourent, ben, posez la question autour de vous, est-ce que les gens qui m'entourent sentent que je les rends heureux. Si je rends heureux les gens autour de moi, c'est que moi-même, je suis heureuse.
Donc là, se rendre compte du bonheur, c'est une question qu'il faut se poser. Elle est presque évidente.
On le fait en entreprise quand on fait ce qu'on appelle un 360 degrés manager. Mais c'est une technique qu'on utilise en coaching, en entreprise. Et on va en fait demander aux collaborateurs, aux gens qui travaillent avec la personne, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là qui se fait coacher aujourd'hui. Mais on devrait tous faire ça dans notre entourage. Faites un 360 degrés familial et demandez, OK, et les enfants, mon chéri, est-ce que tu trouves, ou papa, maman, est-ce que tu trouves que je suis quelqu'un de jovial ? Est-ce que tu trouves que je te rends heureux ?
Est-ce que j'ai une joie de vivre ?
Est-ce que j'ai la joie de vivre ? Si la réponse est oui, je continue comme ça. Si la réponse est non, qu'est-ce qui pêche ? Et je corrige.
Alors, Cynthia, on se sépare quelques instants et on revient pour la seconde partie. Cette fois, on plonge véritablement dans
couple. La
thérapie de couple. Hein, gérer les liens entre l'homme et la femme. À tout de suite. Et on se retrouve dans la seconde partie de Grain de Beauté. Ce matin, c'est notre numéro sur l'hypnothérapie et nous parlons en compagnie de Cynthia Nabé de la thérapie de couple. Alors Cynthia, on a bien compris le fonctionnement de l'hypnose. Comment est-ce qu'on va pouvoir remettre à jour notre carte informatique
Carte du monde.
Notre carte du monde. Alors comment gérer les liens avec son partenaire? Comment consolider ces liens quand on sent que ça se disloque peut-être un peu? Comment développer la séduction qui parfois est se délite un peu tout au long des années, puis régler les discordes lorsqu'il y en a. Est-ce que l'hypnothérapie va pouvoir aider le couple à partir du moment où l'un et l'autre sont à même de comprendre ce que c'est? Est-ce qu'il faut être ouvert à l'hypnothérapie ou bien n'importe qui peut?
Alors, très franchement, déjà, quand on veut faire une thérapie de couple, il faut être ouvert à la thérapie tout court. Mmh. Peu importe le mode de thérapie. Et d'ailleurs, la première démarche et la première séance que l'on fait quand on reçoit un couple en thérapie de couple, c'est de vérifier que le couple a vraiment envie de construire, de continuer de construire ensemble. Parce que si monsieur ou madame, c'est valable pour les deux, là j'ai pas de parti pris, j'ai vu les deux. Si monsieur ou madame, enfin l'un des deux arrive en thérapie juste pour que l'autre le lâche, y a pas d'autre mot, juste pour avoir la paix, mais que dans sa tête, ben lui, il est déjà parti, elle est déjà partie.
C'est fini,
ça sert à rien.
Quelle question on pose à l'un et à l'autre?
Mais clairement, alors moi, la question que je pose systématiquement, et pour moi, c'est la seule vraie question à poser à un couple, mais ça, c'est ma façon de faire à moi, c'est est-ce que vous vous aimez? Parce que s'il n'y a pas d'amour entre vous, vous ne ferez pas d'effort vers l'autre. Déjà, vous n'en ferez pas vis-à-vis de vous-même.
Oui, mais alors quand vous posez cette question, Cynthia, l'amour, c'est très vaste.
Le truc, c'est quoi? C'est que si je n'aime pas l'autre, c'est qu'il y a des chances que je ne m'aime pas moi. Donc, si je ne m'aime pas moi, je ne peux aimer personne. Si j'aime l'autre, c'est qu'il y a une démarche vis-à-vis, une démarche d'aller vers. Ok. Après, les tensions qu'il peut y avoir dans le couple, pour une raison ou pour une autre, ça relève de la thérapie. Mais l'envie de construire ensemble...
De régler les problèmes.
De construire ensemble. Le couple, c'est avant tout une construction. C'est beaucoup de travail, un couple. C'est de l'amour, oui, mais de l'amour, j'ai envie de dire, de l'amour universel. Mais c'est beaucoup de travail, un couple. Vous parliez de réveiller la séduction, etc. Mais enfin, alors là, je m'adresse, en tant que femme, je m'adresse à toutes les mères et les femmes qui nous écoutent. Très franchement, est-ce que, quand vous avez passé votre journée à travailler... que vous avez été chercher le petit dernier, alors je prêche pour ma paroisse, le petit dernier qu'on a été à chercher à la crèche, qu'on est allé courir chercher le deuxième à l'école. On fait les devoirs.
On
prépare à manger. Arrive 21h, et là, très franchement, d'être sexy en diable et amoureuse et aimante et tout. Mais soyons objectifs, c'est pas la première chose à laquelle on pense.
Et même,
on a juste
impossible.
Envie de se mettre dans un bain ou dans son lit et de s'endormir ou de prendre un bon livre.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la vie, tous les jours, le quotidien...
Et le quotidien, il est terrible. Donc, si j'ai un conseil à donner aux couples, c'est aux couples qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, c'est sortez en terrain neutre. De temps en temps, régulièrement, ne serait-ce que pour aller marcher, faire le tour du pâté de maison.
Pour s'expliquer.
simplement pour être en terrain neutre, pouvoir parler librement et sans mauvais ancrage, parce que les lieux, parfois, vous savez, on dit, ne vous disputez pas dans votre chambre à coucher. Par exemple, pour les couples. Pourquoi? Parce que la chambre à coucher, c'est censé être la pièce où le couple se retrouve. Mais si vous vous disputez systématiquement dans votre chambre à coucher, justement, par exemple, pour pas que les enfants entendent, d'accord? Mais il va se passer quoi? À chaque fois que vous allez rentrer dans votre chambre à coucher, bah, vous allez prendre des ondes négatives. C'est là que je me dispute avec mon mari. C'est pas là que je me retrouve avec lui.
Donc, dans un premier temps...
un autre.
C'est ça.
Sortez ensemble, discutez, échangez sur votre journée. Rien en... Faites le tour du pâté de maison.
Donc, la première condition, c'est d'avoir la volonté
d'avoir la volonté
la conserver.
De construire ensemble.
Une fois qu'on l'a, après, c'est la discussion, c'est l'échange.
Alors, en fait, après, ce qu'on va faire, c'est on va travailler avec chacun, avec le mari, avec la femme, ou avec des couples plus modernes, on va dire ça comme ça. je porte aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, donc il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Donc, quel que soit le couple et le type de couple, ben, je vais discuter avec les deux partenaires, on va être neutre dans le discours, avec les deux partenaires, chacun séparément, et on va faire un travail, en fait, vraiment de réparation des blessures, de soin des blessures avec chacun des deux. Pourquoi je me dispute avec mon conjoint ? Pourquoi il y a des tensions avec mon conjoint ? Parce que mon conjoint appuie exactement là où ça fait mal, chez moi. C'est exactement si on prend un peu de recul sur son couple, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, on s'est mis ensemble, qu'on a l'un et l'autre, 9 fois sur 10, la même blessure, et que en fait, on s'est mis avec cette personne-là parce que inconsciemment, parce que mon inconscient, il a senti que cette personne-là, cet homme, cette femme, allait pouvoir réparer ma blessure.
Alors ça veut dire on est uniquement des réparateurs l'un avec l'autre.
Oui, c'est de la cothérapie le couple.
Ah oui, mais alors est-ce que c'est ça le vrai amour ? Oui.
Alors, non, c'est un peu, je démystifie un peu les choses.
Non, mais c'est un peu vrai.
Mais en fait, en réalité, c'est un peu ça.
Oui.
C'est un peu ça. Donc, il est important, une fois qu'on a pris conscience que, OK, j'ai des blessures, il ou elle a des blessures, eh ben de réparer ces blessures-là. Et c'est d'un confort quand on y arrive.
Alors, ce que vous voulez dire, Cynthia, c'est que la discorde dans un couple, ça vient de l'incapacité à cibler sa blessure et à la réparer.
Exactement.
Donc, quand les partenaires ont
travaillé sur leurs blessures, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus aucun enjeu. C'est « je suis là avec toi comme partenaire dans la vie » parce que, justement, il n'y a plus que l'amour.
C'est ça.
Je suis prête à construire avec
Donc,
toi.
Donc, l'objectif, ce n'est pas de se réparer avec son conjoint, ce n'est pas de se soigner. Hein. Le conjoint n'est pas un réparateur. Le vrai conjoint, le vrai amour, c'est l'association, c'est la coopération.
C'est la coopération. Alors, j'aimerais citer, une citation qu'on trouve dans la Bible, dans Bereshit, quand Dieu crée Ève avec la côte d'Adam. Dans le texte, il est dit Dieu a donné, alors je serais incapable de vous le citer en hébreu, donc je ne
Dommage.
Vais pas de manière précise, donc je vais m'abstenir, mais on dit Dieu a donné une femme à Adam contre lui. On dit kenegdo. Contre lui, pour faire comme si l'autre était mon miroir, c'est un partenaire, c'est pour qu'il y ait de la discussion, c'est pour qu'il y ait des échanges, l'autre n'est pas une extension de moi-même.
C'est ça, il faut des étincelles.
Il faut pas forcément des étincelles, mais l'autre est là comme révélateur de moi-même. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là que le travail commence.
Oui. On n'est pas des infirmiers les uns pour les autres.
Alors, on n'est pas des infirmiers, mais dans un couple, oui, tu es toujours là à me contredire. Mais oui, alors contradiction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je suis contre ce que tu dis. Et en même temps, c'est de la discussion. Il y a de la discussion.
Il y a de l'échange.
Oui, il y a de l'échange. C'est là que la construction commence.
Et oui, alors que dans un couple, lorsqu'il y en a un qui répare l'autre, le flux ne va que de A vers B pas de B vers A.
Exactement.
Si je comprends bien.
Et le travail en thérapie et en hypnothérapie, si vous voulez, la différence, c'est qu'on va utiliser l'hypnose pour aller plus vite, finalement. Ça va être de faire un travail et avec chacun des deux partenaires pour réparer, aider la personne, les deux personnes à réparer, à soigner leurs blessures, mm-hmm. de manière de passer d'un couple conflictuel à un couple conscient et même à un couple, ce qu'on appelle un couple divin, c'est-à-dire capable de créer et de construire ensemble.
C'est une belle phrase de fin, ça, Cynthia. Je le sens bien comme ça. Merci. Merci pour tous vos conseils. On va se retrouver dans un mois pour un nouveau thème. Alors, on donne quand même votre numéro de téléphone pour toutes celles et ceux qui veulent vous contacter pour régler.
06 98 32 46 68.
Alors, je vais répéter, 06 98 32 46 68. Donc,
ou
pour
sinon,
contacter
sur mon site
Cynthia.
Internet www.cynthianabe.com.
Cynthianabe.com. Merci beaucoup et on se retrouve
Merci
dans un
Léa.
Mois.
Merci Léa. Au revoir. Avec plaisir, à dans un mois.